Bienvenue sur Balance ton FLE, le podcast qui vous fait découvrir la pluralité du monde du français langue étrangère. Nous sommes Lisa et Zoé, toutes les deux formatrices en FLE et actuellement basées en Allemagne. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les différentes facettes du FLE, car c'est un domaine où l'on a toutes et tous un parcours singulier qui vaut la peine d'être partagé. Il s'agit aussi d'un domaine éminemment politique, à la croisée de plusieurs disciplines telles que la sociolinguistique et la didactique. C'est pourquoi nous aborderons ces questions passionnantes sous différents formats, portraits, témoignages ou encore débats. Par ailleurs, si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous contacter à bonjour@balancetonfle.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et peut-être même de vous inviter à partager un moment audio avec nous. Que vous soyez étudiant ou enseignant, curieux ou passionné, rejoignez-nous dans cette belle aventure linguistique.
On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode avec l'Institut français d'Allemagne pour parler coopération éducative et linguistique. Cette fois-ci avec Sandrine Diesel, attachée de coopération pour le français pour Berlin-Brandebourg, et Charlotte Spilvoix, attachée de coopération pour le français pour le Bade-Württemberg, la Rhénanie-Palatinat et l'Assa. Au programme, projets éducatifs proposés aux établissements scolaires, francophonie, dispositif d'ELF intégré et zoom sur la zone frontalière, Saar, Bade-Württemberg et Rhénanie-Palatinat. Bonne écoute!
Bonjour Sandrine et bonjour Charlotte. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de coopération éducative et linguistique pour le français en Allemagne. Alors nous avons déjà entamé le sujet avec Philippe Gilbert en première partie d'épisode, qui nous a notamment parlé du rôle de l'Institut français dans les relations franco-allemandes et aussi et surtout de la place de l'enseignement du français en Allemagne. Donc avant d'approfondir ce thème qui est extrêmement vaste, j'aimerais faire connaissance avec vous, avec nos invités, avec le rituel du portrait chinois. Alors, mesdames, si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Et bien sûr, naturellement, vous n'êtes pas obligées de vous mettre d'accord et vous pouvez toutes les deux avoir votre ville. Sandrine.
Alors, je prends la parole d'abord. Effectivement, j'avais pensé à Strasbourg, mais comme Charlotte est alsacienne aussi, je me suis dit, je vais pas lui souffler, lui prendre Strasbourg, même si je ne sais pas ce qu'elle va répondre. Donc, du coup, j'opte plutôt pour de l'exotisme. Et moi, ma ville, ce serait Rio de Janeiro, où j'ai eu la chance d'habiter pendant 4 ans. Et pour tout un tas de raisons, d'ailleurs, hein, c'est une ville où ça ne s'arrête jamais, il y a du mouvement tout le temps. Et puis surtout, c'est une ville absolument extraordinaire dans le sens où on a une association entre la mer, la montagne et la forêt. Et cette association-là, je l'ai vue nulle part ailleurs. Et il y a vraiment, quand on arrive à Rio, il y a vraiment un sentiment d'une ville assez exceptionnelle de par sa topographie, sa configuration. Voilà, donc pour moi, c'est ma ville de cœur.
Et Charlotte, serais-tu donc Strasbourg ?
Alors, c'est vrai que c'est la ville à laquelle j'ai pensé en premier. Je me suis dit, je ne peux pas répondre autre chose que Strasbourg parce que, comme l'a dit Sandrine, je suis alsacienne. C'est vraiment la ville dans laquelle je suis à l'aise. Je me sens chez moi, même si je n'ai pas grandi à Strasbourg même, mais à la campagne. Mais voilà, c'est la ville où je me vois aussi peut-être un jour retourner habiter, sans doute. Enfin, une ville qui me correspond assez. Mais j'ai aussi cherché une autre ville éventuelle. Et là, j'ai pensé à Leipzig en Allemagne, donc voilà, on commence déjà les ponts franco-allemands de l'émission. C'est une ville où j'ai aussi eu la chance d'habiter pendant un an, et c'est vrai que ce côté encore en effervescence, en ébullition, ça m'a vraiment plu dans cette ville, comparé à Strasbourg qui est peut-être un peu plus sage, plus calme, plus traditionnel. On a à Leipzig vraiment ce mouvement que j'aime beaucoup et qui me correspond peut-être un peu aussi.
Et alors, une région?
Sans surprise. Alors là, désolée Charlotte, hein, je ne lâche pas le morceau. L'Alsace, clairement. Mm-hmm. Moi, je suis effectivement née à Mulhouse. J'aime tout en Alsace, la gastronomie, les paysages, le côté frontalier. Cette espèce de carrefour, on a l'impression qu'on peut aller partout très, très vite. On est très vite à Paris, on est très vite en Allemagne, très vite à Bâle, très vite en Suisse, très vite dans les Alpes, très vite en Italie. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Et puis ensuite, on a quand même des villes qui ont des identités très, très fortes, des villes parfois touristique, mais moi je pense plutôt à Mulhouse qui est un petit peu la mal-aimée et il y a un dynamisme, une énergie à Mulhouse que je trouve tout à fait intéressant.
Charlotte, l'Alsace aussi?
Non, ça tombe bien, Sandrine. Tu vois, on a, sans se concerter, toi, tu as lâché Strasbourg et moi, je lâche l'Alsace, qui aurait été peut-être une de mes réponses. Mais c'est vrai que, pour toutes les raisons que tu as données, en fait, c'est vrai que l'Alsace me correspond bien aussi. Mais c'est vrai que ce qui me manque peut-être en Alsace, pour moi, c'est la mer. Bon, bien sûr, on ne peut pas tout avoir. Voilà, c'est quand même un paysage. Malheureusement, j'ai peu eu l'occasion dans ma vie d'habiter en bord de mer, mais c'est un environnement qui me plaît aussi. Et je me suis dit peut-être une région qui serait un petit peu le pendant plus, avec un climat aussi peut-être un petit peu plus agréable, plus ensoleillé, ce serait du côté du Pays Basque après, voilà, un peu à l'opposé en France. Ou bien alors là évidemment on n'est plus dans une notion de territoire frontalier, mais la région d'où vient mon compagnon, la Réunion, parce que là aussi sur la diversité des paysages, du climat, de la gastronomie et aussi tout ce mélange de populations au sein de l'île, voilà, c'est des choses qui me parlent et que je trouve très, très attirantes.
Alors, la Réunion n'est pas non plus nouvelle arrivante dans ce petit exercice. Hein. Et alors, si vous étiez une spécialité culinaire, là, vous avez plus de choix. J'espère que vous n'allez pas vous battre pour la Schwarzwald.
Alors non, ça non, clairement non. Je n'arrive pas à me décider. Je suis une énorme gourmande. J'aime plein de choses. Je n'arrive pas à dégager une spécialité d'une autre, en fait. J'aime tout, la cuisine du monde, la cuisine alsacienne, la cuisine française. J'adore les desserts. J'aime beaucoup les bons vins. Enfin voilà, je ne peux pas choisir.
D'accord.
Donc je manque de personnalité sur ce coup-là. Pardon Zoé. Hein.
Pas grave.
Et finalement, je rejoins première réponse de Sandrine sur l'Amérique latine. Alors, pas le Brésil, malheureusement, pas une spécialité culinaire du Brésil parce que c'est un pays que je ne connais pas encore, mais j'espère un jour pouvoir m'y rendre. Mais plutôt, je pense plutôt à des plats du Mexique. Je connais le pays, j'ai eu la chance d'y vivre et donc d'apprécier la cuisine au quotidien là-bas. Alors, un plat en particulier, ce serait peut-être un peu dur à dire, mais voilà, toute cette cuisine épicée, voilà, ça j'aime beaucoup. Le havas d'avocat, ça aussi, ça me parle beaucoup. Donc, voilà. Ou alors même avec les fruits de mer, un ceviche ou alors, je pense, à ces fameux sandwichs qu'il y a à Mexico à base d'avocats qui sont comme une sorte de hamburger un petit peu si on veut, enfin non c'est leur faire une mauvaise pub de dire ça, mais voilà ce serait mes spécialités culinaires, de manière générale la cuisine mexicaine, enfin les plats, pas forcément les desserts.
On va passer aux choses sérieuses. Charlotte, je te délaisse un petit peu. Bien sûr, tu peux naturellement intervenir et rebondir sur ce que Sandrine va dire, mais on va, dans un premier temps, discuter avec Sandrine de francophonie, notamment, et des différents projets de l'Institut français pour promouvoir la langue française et encourager l'enseignement de la langue française. Alors, Sandrine, à nous. Ma question désormais, alors on a parlé avec Philippe en première partie d'épisode de la place de l'enseignement du français et donc malgré les inquiétudes, notamment des enseignants de français, le français se porte plutôt bien, même s'il y a une tendance qui inquiète. Le français reste la première LV2, si je puis dire, en Allemagne. Et finalement, l'espagnol, bien qu'il y ait de plus en plus d'apprenants, ne constitue pas une réelle menace pour l'enseignement du français. J'imagine que les relations privilégiées entre la France et l'Allemagne y sont pour quelque chose. Mais ma question désormais est, quelle est la place de la francophonie dans cet enseignement du français en Allemagne?
Je pense que la francophonie, elle représente déjà pour nous, en tant qu'institut français, une espèce de renouveau aussi. Hein. C'est une piste de dynamisme, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui nous permettent d'apporter de nouvelles sources, un nouvel argumentaire sur l'enseignement du français et pourquoi j'apprends le français. Alors, la francophonie, dans les manuels de FLE, par exemple, elle trouve sa place. timidement, mais elle commence à trouver sa place. Il y a deux manuels que j'ai regardés un petit peu de plus près, de nos deux éditeurs allemands légendaires, Parcours Plus de Cornelsen et Horizon de Klett, où effectivement, on propose des animations, des supports en lien avec la francophonie. On peut y voir, par exemple, dans un des manuels, une fiche d'activité avec une jeune Antillaise qui va faire des courses dans une épicerie, voilà. Et on pose des questions, compréhension culturelle. Donc, il y a une forme de contextualisation dans les manuels de prise en compte parce que si on prend les thèmes du Zentralabitur, donc les thèmes de 2024 à 2026, il y a effectivement la thématique la France et la francophonie avec trois entrées, l'héritage colonial, la relation entre la France et un autre pays francophone et la coopération dans l'espace francophone dans une perspective globale. Donc, ces trois entrées, c'est très intéressant parce que dans la deuxième entrée, donc la relation entre la France et un autre pays francophone, on parle du Sénégal, du Maroc, du Québec, et on parle aussi de la Guadeloupe. Et ça, j'ai trouvé ça quand même extraordinaire. Oui. C'est-à-dire que la Guadeloupe, dans le prisme de nos amis allemands, dans le regard porté sur la France, c'est pas la France, c'est un pays francophone. Or, la Guadeloupe est quand même un département. Et je crois qu'on a tout ça aussi à déconstruire. On exporte depuis des années, une vision de la France métropolitaine, assez monolithique, en fait, parce que même dans la France métropolitaine, les identités régionales ne sont pas toujours prises en compte. La question des accents, par exemple, n'est pas systématiquement prise en compte. Donc, on a à déconstruire tout ça et à montrer une forme de diversité. Vous voyez, ça, c'est un des enjeux qui semble quand même important pour nous dans l'image qu'on a de la langue française et de la culture française.
Oui, effectivement, j'imagine que la proximité, notamment avec l'Allemagne, de la France métropolitaine, n'y est pas pour rien. Donc, il y a encore, selon vous, un gros travail à faire sur ce paysage francophone.
Alors, ce que vous dites, en fait, je crois que c'est vérifiable dans le monde entier. Pour avoir été au Brésil, pour avoir lu des choses aussi sur l'enseignement du français en Suède, par exemple, on voit que la France, c'est la France métropolitaine qui s'exporte. Oui. C'est pas une question de proximité. Si vous voulez, l'intérêt de l'Allemagne, c'est qu'effectivement, elle est au cœur d'un espace francophone, la Suisse, la France, le Luxembourg, la Belgique. Donc, on a cet espace francophone de proximité. Mais c'est pas ça, c'est vraiment dans l'imaginaire collectif, dans les clichés aussi qu'on a. La France, ça reste, et c'était le cas déjà au Brésil, ça reste la Tour Eiffel, Édith Piaf et Truffaut. En fait, je synthétise vraiment, je schématise, mais c'est quand même cette idée-là. Il y a deux étapes de mon point de vue. Il y a montrer une France plus diverse, plurielle en fait, et puis il y a aussi placer la France dans une ère linguistique et culturelle qui est la francophonie. Et ça, c'est la deuxième étape, vous voyez ? Les deux peuvent se conjuguer.
Donc, dans la francophonie, disons qu'il y a ce volet civilisation, j'aime pas trop ce mot-là, mais avec des contextes, contextualiser la langue ailleurs. Mais il y a aussi le volet linguistique, j'ai envie de dire, avec, vous en aviez parlé rapidement, question des accents, la question aussi des dialectes. Alors, est-ce qu'on peut espérer en Allemagne une ouverture ? Je ne vais pas parler d'apprentissage complet, mais d'une ouverture vers ce français francophone, c'est-à-dire vers un peu plus de québécois, de créole. Par exemple, à plus de chez Cornelsen, il y a toute une unité sur le Québec dans le tome 3, dans le nouveau tome 3, et voilà, il y aura quelques mots, quelques expressions typiquement québécoises, mais globalement, on marque encore le fait que c'est le français du Québec et pas le français de France. Est-ce qu'il y a une volonté d'ouvrir le français aussi à ces horizons-là ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a déjà le français comme langue standard et universel, ce fameux français de Villers-Cotterêts qui ne tient pas compte des langues régionales. Voilà, il y a ce français-là, ce français de la norme, ce français standard qui a été enseigné pendant des années. Et puis, il y a toute la diversité, toutes les langues plurielles. Apprendre le créole, je ne sais pas si ça aurait vraiment du sens pour un Allemand. Mais apprendre que diverses langues, divers français existent, ça, c'est important. Alors, on le montre. Est-ce qu'on le montre suffisamment pour que ce soit intégrer. Je pense que oui, il existe quand même des outils très intéressants comme le dictionnaire des francophones, qui est en fait ce dictionnaire un peu participatif où toutes les régions du monde francophone peuvent contribuer et mettre des expressions idiomatiques. Ça montre, si vous voulez, la richesse de ce français-là, de ce français parlé, de ce français écrit dans différents, enfin sur les 5 continents, mais ça n'en devient pas pour autant une langue d'enseignement. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est vraiment, de mon point de vue, ce sont deux choses différentes. Mais c'est important qu'un apprenant ait conscience de la norme, des différentes normes, des différents parlés.
Est-ce que les enseignants de français en Allemagne sont préparés à cette vision un peu plus ouverte sur la francophonie, ou vous avez l'impression que les enseignants de français en Allemagne restent quand même très centrés sur la France métropolitaine ?
Comme partout ailleurs, ils sont très centrés sur la France métropolitaine, mais on est au début en fait. Les choses évoluent vraiment doucement et dans l'enseignement, les choses se font vraiment doucement. Ça va changer. Les nouvelles générations sont des générations aussi qui ont une plus grande mobilité. On a accueilli une dizaine d'assistants de langue française à Berlin. Là, je parle juste de mon fief, hein, mais dans cette dizaine, il y avait une assistante québécoise, une jeune fille qui venait de Belgique, et effectivement, les 8 autres venaient de la France, mais pas que métropolitaine. On avait une assistante réunionnaise. Donc, si vous voulez, tout ça se met en place gentiment.
Alors justement, on va parler du programme des assistants de langue plus tard dans cette semaine franco-allemande, mais c'est vrai que les assistants de langue, c'est aussi un outil pour les enseignants pour diffuser ou du moins ouvrir les perspectives sur la francophonie.
En fait, c'est pas simplement ouvrir sur la francophonie, c'est apporter peut-être un peu de jeunesse, des supports qui sont aussi des supports vers lesquels n'irait pas forcément le corps enseignant de français en Allemagne, enfin le corps des enseignants de français en Allemagne plus exactement, est vieillissant, comme le reste de la population, il faut pouvoir l'énoncer comme ça. Donc je crois que Philippe l'avait dit, on a un enseignement qui est quand même très traditionnel, qui est sur des choses qui sont très établies, très patrimoniales. Les assistants de langue contribuent aussi, mais je ne veux pas déflorer ce que vous allez faire dans un prochain podcast, mais les assistants de langue contribuent aussi à apporter leur jeunesse, leur support, leur musique, leur coup de cœur, leur façon de faire, voilà, pour moderniser les pratiques.
Charlotte.
Oui, j'allais dire, si je peux me permettre, la discussion que vous avez avec Sandrine sur cette ouverture à la francophonie, je la trouve très intéressante dans une perspective franco-allemande, mais moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est que dans une perspective franco-française, on va dire, puisque je suis à l'origine professeure de français en France, finalement, cette ouverture vers la francophonie, même en France, elle est assez récente dans l'enseignement du français en France. Aux élèves français, enfin, ou en tout cas qui résident sur le territoire français, c'est aussi très, très récent qu'on ait au programme des œuvres d'auteurs qui ne soient pas français et qu'on s'intéresse aussi à d'autres parlers français francophones. Voilà, c'était simplement pour aussi décaler un petit peu cette perspective.
C'est une excellente remarque, effectivement, par rapport à la littérature, tu fais bien de le dire, c'est que dans nos formations initiales, moi je parle de ma génération, mais je pense que ça s'est un petit peu changé après, mais on a effectivement d'un côté les auteurs français, de l'autre côté les auteurs d'inspiration et de langue francophone. Et en fait, c'est quand même très très récent que ça se soit fédéré autour de cette volonté d'être des auteurs de langue française au sens large. Hein, je crois que c'est Michel Lebris avec le Festival des étonnants voyageurs de Saint-Malo qui a fédéré comme ça toute la communauté. Et on est arrivé, c'est très très récent là, en septembre de l'année dernière, à un congrès des écrivains de langue française. Et je crois que quand on réussira dans une librairie à mettre tous les auteurs de langue française ensemble sans faire le distinguo de leur zone aussi géographique, parce que ça, on le voit encore, on aura aussi beaucoup progressé. Donc, c'est vrai que ce que dit Charlotte, c'est très juste aussi. Cette prise en compte est quand même vraiment très récente.
Et même pour enfoncer le clou, avec le prix Goncourt de cette année qui a été remis pour la première fois à un auteur africain, ce qui est exceptionnel. Enfin, exceptionnel.
Oui, non, donc on voit bien que c'est vraiment des préoccupations qui sont récentes, et par ricochet, si vous voulez, ça va venir dans l'enseignement. Mais ça va prendre un petit peu plus de temps.
Merci Sandrine. Alors, avant de poursuivre notre conversation, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre poste exactement au sein de l'Institut français? Parce que, sauf erreur de ma part, vous avez deux casquettes, une casquette régionale et une casquette plus fédérale.
J'en ai même trois des casquettes. Je peux quasiment changer tous les jours. J'ai une casquette qui est régionale puisque je suis, comme Charlotte, attachée en territoire. Moi, mon fief, c'est Berlin-Brandebourg. J'ai une casquette aussi de responsable de la gestion centrale du DELF. Je laisserai Charlotte tout à l'heure en parler de cet examen qui est quand même très important pour nous, qui est un véritable levier. Et puis, comme le disait Philippe, je suis aussi une attachée fédérale et son adjointe au bureau de coopération linguistique et éducative. Voilà, donc j'ai ces trois casquettes-là.
Alors, je crois que c'est avec votre troisième casquette que vous allez aborder la question suivante, c'est-à-dire les projets, les actions menées par l'Institut français pour promouvoir la langue française dans les écoles.
Les projets, on en a beaucoup, Zoé.
Oui.
Je vais essayer de faire quelque chose qui ne soit quand même pas un listing. Il faut savoir qu'on a 5 gros projets fédéraux qui n'excluent en aucun cas ce qui peut se faire en territoire et d'initiatives nouvelles, mais ce sont quand même un petit peu nos projets phares, nos mammouths. Ce sont des projets qui sont toujours en lien avec le culturel. Donc, on a par exemple, je vais commencer peut-être par le projet France Mobile, qui est en partenariat avec l'OFAL. J'ai envie de commencer avec ce projet-là parce qu'il est quand même très, très franco-allemand. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire qui n'existe, à ma connaissance, nulle part ailleurs au monde en termes de coopération. Donc, ce sont 12 lecteurs qui sillonnent l'Allemagne et qui font des animations dans les écoles avec l'idée d'ouvrir l'appétence du français aux élèves allemands. Il y a plus d'1 345 000 élèves qui ont bénéficié de ce programme depuis 2002 et ça représente à peu près 40 000 élèves par an qu'on touche comme ça à travers différentes animations. Ensuite, on a deux projets plus culturels, Franco-Musique et Ciné-Fête. Ciné-Fête, c'est un festival de cinéma avec Agekino, qui touche à peu près 90 000 spectateurs. Donc, ça va des écoles primaires jusqu'au lycée, avec une sélection de 7 films récents, accompagnés de dossiers pédagogiques. Et toujours dans le domaine culturel, on a Franco-Musique avec un partenaire, Cornelsen, où l'idée de Franco-Musique, c'est de diffuser de la musique actuelle, contemporaine, avec des thématiques actuelles comme les différences hommes-femmes, la parité, les violences faites aux femmes, le rôle des réseaux sociaux, les influenceurs, l'affirmation de la différence. Enfin, voilà, on a vraiment des thématiques actuelles sur des chansons qui sont récentes et dans des styles très différents, rap, hip-hop, pop, etc. Donc là, pour nous, c'est parfois aussi l'occasion, j'essaye de faire aussi le lien peut-être avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la francophonie, de mettre en avant des auteurs, compositeurs, interprètes d'origine étrangère. Dans la sélection de cette année, on a par exemple Gaël Faye, qui est à la fois musicien et auteur, donc qui est franco-rwandais. Autrement, peut-être si on passe du côté littérature, Francomics, qui pour nous est donc un concours de bandes dessinées que nous montons en partenariat avec le DFI d'Erlangen, qui touche une soixantaine d'écoles avec un véritable accompagnement, des webinaires avec des auteurs illustrateurs, mais aussi des webinaires autour des ressources pédagogiques, autour du panorama de la BD actuelle. L'idée de Francomics, si vous voulez, c'est de mettre vraiment le 9e art au cœur des supports possibles pour l'enseignement du français, parce qu'on s'est rendu compte que les enseignants allemands utilisent très très peu la BD, et quand ils l'utilisent, ils sont souvent sur des BD pareilles, patrimoniales, Astérix, Spirou, Tintin, très bien, mais on a quand même en France cet énorme vivier d'auteurs illustrateurs. Je vais pas faire ma chauvine en disant qu'ils passent tous par Strasbourg, mais bon, j'ai quand même envie de le dire. Mais on a envie de donner cette visibilité-là et aussi de toucher un public qu'on touche un petit peu moins, qui est le public d'âge scolaire, parce qu'on a pas mal de projets quand même qui touchent l'Oberstufe. J'en finis avec notre projet phare depuis 2004, qui est le prix des lycéens allemands, qui est donc très établi et qui touche entre 3000 et 4000 élèves par an, donc qui a été construit, enfin, je le redis peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le prix, il a été pensé sur la base du prix Goncourt des lycéens. On a essayé de l'aménager au fur et à mesure du temps. Au départ, il y avait 5 ouvrages, puis nous sommes passés là actuellement à 3. Oui. Très intéressant aussi pour nous le prix des lycéens allemands, parce que ça renvoie à quelle est la langue qui est utilisée, qu'est-ce qu'on déploie aussi dans les cours de l'Leistungskurs, et c'est aussi une façon de promouvoir la littérature de jeunesse française, francophone auprès de nos amis allemands, là aussi en partant sur des ouvrages en lien avec des thématiques actuelles. Donc, c'est un peu le reflet, si vous voulez, de la société. Voilà pour nos projets phares. Il y en a deux autres aussi qui sont très intéressants. C'est l'Internet Wettbewerb qui est mis en œuvre par l'Institut français de Düsseldorf. Et puis le projet Kamilala qui est soutenu par une de nos attachées de coopération qui est un projet de Kamishibai, mais plutôt pour les enfants de primaire. Parce que notre idée, oui, malgré tout, c'est d'avoir cette espèce, je crois que Philippe vous en a parlé, de continuum entre, oui, on va même des Kitas hein, jusqu'à la Bibac. Voilà, jusqu'à l'habitou. On a ces projets fédéraux, effectivement, comme levier très important, mais on a aussi le DELF scolaire, le DELF scolaire intégré, qui est un outil qui se déploie d'ailleurs de plus en plus dans le système éducatif allemand, avec ce modèle du DELF intégré qui est quand même unique et dont va parler Charlotte.
Alors oui, le DELF, c'est un sujet que je connais très bien, donc je tiens à m'excuser auprès des auditeurs si je fais des raccourcis par passion professionnelle. Donc Charlotte, à l'instar de Sandrine, tu es attachée de coopération pour le français, mais pour la SAR, la Rhénanie-Palatinat et le Bade-Württemberg, et c'est en cette qualité qu'on t'interroge. Un autre projet énorme pris en charge par l'Institut français, c'est le DELF, et donc le DELF intégré. Alors, Charlotte, qu'est-ce que c'est le DELF intégré ?
Effectivement, donc on a choisi cette dénomination pour le distinguer du DELF scolaire qu'on finit par appeler DELF scolaire classique aussi entre nous pour faire le distinguo. C'est un DELF scolaire, hein, donc c'est un diplôme qui permet d'évaluer les compétences des élèves en français. Ce sont les mêmes formats d'examen qu'habituellement, qu'on connaît habituellement avec le DELF scolaire, les mêmes sujets d'examen, etc. La différence, c'est que les conditions, si on va dire, de passation de cet examen sont un petit peu hors normes, dans le sens où, au contraire du DELF scolaire où les élèves passent l'examen hors du cours, hors du temps scolaire, hein, généralement pour les examens écrits le samedi matin, donc pour les épreuves collectives et pour les épreuves individuelles également le samedi ou alors l'après-midi, on est avec le DELF scolaire intégré, dans un modèle où l'examen se passe sur le temps scolaire, sur le temps de cours. L'examen écrit ou les épreuves collectives sont proposées en classe par les professeurs à leur groupe d'élèves de façon quasi automatique, on va dire, pour les écoles qui font partie du projet. Ces examens sont ensuite corrigés par les professeurs de l'établissement qui sont habilités, évidemment, à corriger cet examen, hein, qui ont suivi une formation et qui ont reçu cette habilitation pour être examinateurs, correcteurs de l'examen. Et suite à cet examen, qui a donc été passé finalement comme un devoir scolaire classique, comme une Klassenarbeit allemande classique, et qui d'ailleurs va donner lieu à une note dans le système scolaire allemand par un jeu de transposition, on va dire, hein, à partir de la note obtenue à cette épreuve écrite. Donc, suite à cet examen écrit, les élèves peuvent faire le choix. J'ai parlé d'un quasi-automatisme pour l'épreuve écrite. Là, on arrive au moment où les élèves peuvent faire le choix de passer l'examen oral, donc la dernière partie de l'examen pour l'épreuve individuelle. Et si, évidemment, la note finale le permet, ils reçoivent ainsi le diplôme DELF scolaire et cet oral, peut-être ce qu'il faut dire avant d'obtenir le diplôme, cet oral est aussi évidemment proposé dans l'école par les professeurs qui sont habilités à faire passer cet examen.
Et tout ça à un tarif préférentiel pour encourager à passer cet examen.
Tout à fait, c'est effectivement peut-être une différence assez fondamentale aussi que j'oublie, que je n'ai pas mentionnée. Évidemment, le tarif est adapté, on va dire, pour encourager le plus d'élèves possible à passer cet examen. Voilà, et donc l'examen écrit qui fait office de Klassenarbeit est évidemment gratuit pour les élèves. On ne leur demande pas de payer pour passer un devoir en classe. Et c'est s'ils s'inscrivent pour l'examen oral qui donne lieu, en cas de note positive, à la délivrance du diplôme, qu'il paye ce tarif réduit, qui est actuellement de 20 euros.
Comme tu l'as dit tout à l'heure, les examinateurs-correcteurs sont les enseignants des élèves, ce qui marque une grosse différence avec le DELF scolaire, donc classique. Qui sont les acteurs, les interlocuteurs des enseignants, des élèves dans ce projet de DELF intégré?
Des acteurs, il y en a plein, il y en a de plus en plus, j'ai envie de dire, avec l'élargissement du projet, c'est assez normal, hein, puisqu'on parle là d'autres structures d'école, donc encore un fonctionnement administratif un peu différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent avec les gymnasiens. Mais pour commencer, évidemment, j'ai envie de dire l'Institut français d'Allemagne, l'ambassade, et puis aussi côté français, France Éducation Internationale, hein, donc l'opérateur qui propose ces certifications DELF. Donc ça, on va dire peut-être les acteurs qui portent le projet côté français. Et alors, du côté du Bade-Württemberg, on va avoir évidemment une coopération très, très forte pour ce projet avec le Kultusministerium, donc le ministère de l'éducation du Land, qui est bien sûr engagé dans ce projet, qui est à l'origine aussi de ce projet. C'est un projet conjoint, hein. Ce n'est pas quelque chose que l'Institut français d'Allemagne est venu imposer ou je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Non, c'est vraiment parti d'une demande du terrain ou d'une idée du terrain, d'une idée conjointe ici local entre l'Institut français et d'Allemagne et le ministère de l'Éducation. Donc, c'est évidemment notre premier partenaire sur ce projet avec voilà, les différents départements qui peuvent être concernés dans ce ministère. Et puis, une structure, on va dire, qu'on peut peut-être comparer côté français à un institut de formation des professeurs pour pouvoir assurer ces formations. Puisque je le disais tout à l'heure, ce sont les professeurs qui corrigent les examens. Et pour ce faire, évidemment, ils doivent suivre, comme n'importe quel examinateur correcteur du DELF, une formation spécifique qui leur permet ensuite d'obtenir une habilitation à corriger le diplôme. Et donc, nous travaillons là également main dans la main avec les formateurs, enfin l'institut de formation, on va dire, qui s'appelle le ZSL ici, et les formateurs qui dépendent de cet institut de formation, ou bien que nous recrutons nous-mêmes Institut français d'Allemagne pour assurer ces formations-là.
Alors, le DELF intégré, c'est, disons, un projet qui a vu le jour dans cette région du Bade-Württemberg, même s'il y avait quand même quelque chose de similaire déjà en Bavière et même en Sarre avec le DELF Prime. Sandrine, vous avez accompagné les premiers pas de ce DELF intégré dans la région Berlin-Brandenburg. Comment ça s'est passé?
Alors, j'ai pas accompagné dès le départ, hein. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est mon prédécesseur, Johann Jolimüller, qui avait lancé effectivement toutes ces démarches auprès du Sénat et du ministère du Brandebourg. Donc, toute cette dimension, si vous voulez, politique, etc., déploiement, d'un point de vue des principes, ça a été fait par Johann. Et moi, je suis arrivée effectivement en mai l'année dernière, et là, il a fallu mettre en œuvre. Donc, on est en train de mettre en œuvre. Alors, comment ça a été perçu? J'ai envie de vous dire qu'on est parti sur un principe de base pour les deux lenders. D'ailleurs, c'est que s'inscrivent au DELF scolaire intégré les écoles qui sont volontaires. Et ça, je dois dire que ça fait quand même bien la différence. C'est un appel à candidature qui permettait quand même de dire très exactement quelles étaient les grandes lignes du projet, mais aussi les implications que le projet pouvait avoir sur le temps que les enseignants devaient y consacrer, par exemple. Ça, c'était parfois un petit peu mésestimé, parce qu'effectivement, Charlotte a parlé de la formation continue des enseignants. Il y a cette formation continue, puis il y a tout cet accompagnement parce que c'est un véritable outil de modernisation des pratiques, du travail des compétences de manière très normée, avec une compétence orale qui est à même valeur, on va dire, que l'écrit, par exemple. Et puis cette révolution culturelle qui consiste aussi à dire que le DELF, ça se prépare pas dans une aguée, que les cours de français doivent préparer mais de manière très fluide, le DELF. Donc voilà, juste pour vous dire que ça, c'est des choses qu'il a fallu expliquer aux enseignants. Parce que certains ont dit, mais très bien, on fait une aguée. Non, 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 c'est pas ça l'idée. Et la méthodologie du DELF est intégrée dans vos cours. Et là, on a senti que certains n'étaient pas encore complètement prêts. Certains ne voient pas encore vraiment ce que ça veut dire. Mais bon, écoutez, on a sur mes deux lenders, ce sont évidemment des chiffres qui sont beaucoup plus modestes par rapport aux chiffres de Charlotte dans le Bade-Württemberg. On a une quarantaine d'écoles qui vont expérimenter ça au mois de mars et que nous accompagnons. C'est très intéressant parce qu'on sent bien qu'on n'intègre pas uniquement un examen dans un cours, ça met en question tout un tas de pratiques qui avaient lieu. Enfin, les aguées de DELF, elles sont pas séculaires, hein, mais Mais depuis que le Delphes existe, pas loin, quoi.
Quels sont les enjeux, d'une part, linguistiques, à moins qu'on les associe aux enjeux pédagogiques, et les enjeux politiques, d'autre part, de ce Delphes intégré ?
Du point de vue des ministères, en fait, il y a cette forme de benchmarking, c'est-à-dire qu'en 10e classe, donc l'équivalent d'une classe de seconde, voilà le niveau qui doit être atteint. Ça, si vous voulez, c'est un enjeu de qualité. C'est un indicateur de qualité. Mm-hmm. Voilà, nos élèves qui font du français, à la fin de la 10e classe, ils ont atteint le niveau B1. Ça, c'est quelque chose de quand même très, très important pour les ministères. Pour nous, en termes d'enjeux, il y en a plusieurs. Il y a déjà le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de moderniser les pratiques enseignantes. C'est quand même notre rôle à nous, Institut français, de mettre à disposition des enseignants allemands de français des outils qui permettent de moderniser leurs pratiques. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, on s'est rendu compte avec la pandémie, et c'est ce qui, je crois, a accéléré aussi le basculement d'un certain nombre de lenders dans le Delphes scolaire intégré, c'est que le Delphes scolaire intégré a mieux résisté que le Delphes scolaire, comme dirait Charlotte, classique, c'est-à-dire que les idées de report, d'annulation, etc., c'était des choses extrêmement compliquées à mettre en œuvre. Les équipes se sont vraiment mobilisées pour que ça se passe au mieux. De fait, quand c'était déployé dans les établissements scolaires, le Delphes intégré s'en est, de ce point de vue-là, mieux sorti.
Pour compléter ce que disait Sandrine, et ce qu'elle a d'ailleurs évoqué quand elle a parlé du lancement du projet à Berlin et dans le Brandebourg, le fait que cette démarche soit volontaire de la part de l'école et des professeurs, ça c'est quelque chose qui est très important pour les professeurs et en fait finalement aussi d'un point de vue politique. Parce que moi, le retour que j'ai eu cette année où nous expérimentons donc pour la première fois dans les Realschulen et les Gemeinschaftsschulen le projet pour le Bade-Württemberg, c'est vraiment du côté du ministère aussi de dire on n'a aucun autre projet qu'on propose, nous, ministère de l'Éducation, à nos écoles, à nos professeurs, qui rencontrent un tel succès, pour lequel les professeurs sont aussi volontaires, motivés, engagés et nous demandent, en fait. Et c'est vrai que la phase d'inscription pour ce projet ici a été très courte. On a eu un nombre d'écoles et de professeurs intéressés bien supérieur à ce qu'on attend. Oui. Nous a conduit à démultiplier les formations. Là, on est en train de former plus de 200 professeurs pour ce projet, en plus des 200 professeurs qu'on forme déjà, collaboration avec le ministère ici, heureusement, pas avec nos formateurs, pour les gymnasiums. Donc, vous voyez le volume de formation nécessaire. Et voilà, le retour, c'était vraiment enthousiasme, professeurs extrêmement motivés aussi à l'issue de la formation, qui est quand même assez lourde, il faut le dire. Et pourtant, voilà, dans les questionnaires de satisfaction, c'est vraiment l'envie maintenant d'aller mener ce projet avec les élèves. Voilà, donc c'est évidemment important pour nous dans la relation qu'on a avec les professeurs, mais aussi dans la relation finalement que les ministères ont avec leurs écoles, leurs professeurs. Mmh. Pouvoir proposer un projet comme ça qui donne envie et qui va donner envie pour le français, en fait, plus particulièrement, bien sûr.
Merci d'écouter et de soutenir notre podcast. N'hésitez pas à nous suivre et à réagir via nos réseaux sociaux. Nous sommes présentes sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Pour aider le podcast à se faire connaître, vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Balance ton FLE et recevoir du contenu exclusif, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et consulter régulièrement notre site internet www.balancetonfle.fr. Vous pouvez également nous contacter par email à l'adresse bonjour@balancetonfle.fr.
Côté technique, Karma Instru a réalisé la bande-son et Aude Langlois le mixage. Les liens vers leur réseau sont en barre d'infos.